Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Un podcast de France Culture.
Troisième épisode de notre série sur les grands conquérants de l'histoire, bâtisseurs d'empires prospères. Aujourd'hui, nous nous glissons dans la peau d'une impératrice qui rêvait de reconstituer l'empire byzantin, Catherine II. Au XVIIIe siècle, la grande Catherine annexe ainsi l'Ukraine, grenier à blé de l'Europe, et la Crimée, paradis des aristocrates russes. Deux siècles et demi plus tard, la figure de la tsarine, largement instrumentalisée par Vladimir Poutine, n'a plus bonne presse et sa statue à Odessa a même été déboulonnée. Nous allons revenir sur cet âge d'or de la Russie que fut le règne de Catherine II, âge d'or contesté, en compagnie de Francine Lichtenan, historienne, directrice émérite de recherche au CNRS, autrice de cet ouvrage « Catherine II, le courage triomphant » paru aux éditions Perrin. Également avec nous, en duplex de Rennes, Michel Tissier, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes II, membre de l'unité de recherche Tempora et auteur de « L'Empire russe en révolution » chez Armand Collin, une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancey, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Michel Tissier et Francine Lichtenan.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pourquoi le règne de Catherine II, qui s'étale de 1762 à 1796, est-il important, Francine Lichtenan? Parce que c'est un moment où la Russie se transforme en puissance mondiale.
La Russie est déjà une puissance mondiale au début du XVIIIe siècle avec Pierre le Grand. Il ne faut pas l'oublier. Et elle prend une place prépondérante dans la diplomatie européenne avec Élisabeth, la fille de Pierre le Grand. Catherine reprend en quelque sorte le flambeau et développe en quelque sorte la flamme de cette approche de la Russie de l'Europe à tous les titres, et culturel, et politique, scientifique aussi, bien sûr, pour Catherine c'est très important, voire aussi, jusqu'à un certain point, sur un certain nombre de structures sociales et politiques.
Oui, c'est un âge d'or, mais sans doute plus sur le plan culturel que sur le plan économique, Michel Tissier.
Alors, effectivement, l'idée d'âge d'or est assez contestée, forcément, parce que tout dépend de quel côté on regarde et à quelle partie de la population on va s'intéresser. D'abord, c'est un règne qui est long, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la première chose qui fait qu'il est effectivement marquant, hein, et c'est parmi les règnes au XVIIIe siècle le plus long. Et pour la suite aussi, au XIXe siècle, c'est un règne dont la longueur est importante. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est, comme l'a dit Madame Lichtenan, c'est bien sûr la place que la Russie, l'Empire russe, cherche à tenir en Europe et l'ouverture sur l'Europe que Catherine prolonge après ce qu'avait fait et voulu faire et en grande partie réussi à faire Pierre le Grand.
Alors le règne de Catherine II est-il synonyme de prospérité? On va en parler tout au long de cette émission. Mais d'abord, Marlène Dietrich a incarné Catherine II au cinéma dans L'Impératrice Rouge de Joseph von Sternberg, un film de 1934. Dans la scène que vous allez entendre, elle s'appelle encore Sophia Frederica et cette jeune Prussienne de 15 ans est accueillie à la cour de Russie par l'impératrice Élisabeth Ier.
So this is little Sophie, Sophia Frederica. Hardly a name for a future empress. You don't like your name, do you?
I do, Your Imperial Majesty.
You will be called Catherine Alexina, a good Russian name. We've arranged a special ceremony next week to receive you into our church. How was the journey? Comfortable?
Yes, Your Majesty.
Are you happy to be here?
Yes, Your Majesty.
Are you going to love your new country?
Yes, Your Majesty.
You promise to be a loyal subject?
Yes, Your Majesty.
And don't make too many new friends and no intrigue and gossip. I have my hands full now. And now, Catherine, before you go to your rooms, is there any wish I can grant you?
I would like to see the Grand Duke.
Je voudrais voir le grand-duc, répond la jeune Sophie, rebaptisée Catherine par Élisabeth Ier, qui lui demande si elle va aimer son nouveau pays, si elle sera un sujet loyal. Ce qu'il faut comprendre, Francine Lichtenen, c'est que rien ne prédisposait cette petite aristocrate allemande à devenir impératrice.
Non, en effet pas, mais toujours est-il que son mariage est arrangé. Et c'est Frédéric II qui s'en mêle. Et il savait, il connaissait l'intelligence de Catherine. Il
avait Frédéric II de Prusse.
De Prusse, oui. Et donc, c'est un mariage qui est quand même arrangé, parce qu'en effet, elle n'est pas destinée à devenir, disons, grande duchesse de Russie. Donc, de ne pas régner, mais d'être la compagne de son mari, lui, futur tsar de Russie. Et Frédéric avait très bien calculé son coup, se disant, ça influencera la cour de Russie en faveur de son pays, donc de la Prusse, à contrario des sympathies intellectuelles que la Russie pouvait avoir pour la France.
Et alors, si elle parvient à monter sur le trône, c'est dans un contexte bien particulier, qui est celui de la guerre de 7 ans. C'est un conflit qui oppose d'un côté la Grande-Bretagne et la Prusse, et de l'autre la France, l'Autriche et la Russie. Comment réussit-elle à prendre la place donc de son mari, Pierre III, qu'elle décrit dans ses mémoires comme un imbécile qui avait pris l'habitude de s'enivrer dès son plus jeune âge, Michel Tissier?
Elle prend la place d'une façon qui reste très marquante et évidemment qui ne lui fait pas honneur, puisque en fait avec son entourage, enfin elle n'a pas suivi les conseils que lui ont donné Elisabeth dans le passage que vous avez donné du film avec Marlène Dietrich, et au contraire elle a très vite réussi à circonvenir en intriguant un certain nombre de nobles russes et finalement à évincer son époux légitime. Et ça se termine très vite, le règne de Pierre III, hein, puisqu'il est arrêté, mis aux arrêts et puis assassiné, dans des conditions qui sont difficile à connaître avec grande précision,
mais probablement par un proche de Catherine II.
Voilà, et qui constitue pour son avènement évidemment un problème de légitimité, si vous voulez. Alors elle peut accéder au trône parce que finalement la propre épouse de Pierre Ier avait accédé au trône de la même façon à la mort de Pierre, et donc il y a une forme de précédent, et c'est ce qui se produit. Mais les circonstances dans lesquelles elle prend le pouvoir, véritablement, c'est une prise de pouvoir, sont évidemment douteuses.
Francine Lichtenen?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Catherine accède au pouvoir d'une part. Contrairement à Catherine Ière, il y a quand même mort d'homme. Alors que sous Catherine Ière, il y a tout simplement un héritier qui est trop jeune pour prendre le pouvoir. Donc c'est un peu différent. Mais je dirais surtout que Catherine aurait eu tout au plus droit d'être régente. Parce qu'il y a un fils. Elle a eu un fils de Pierre III. Enfin, on soupçonne que c'est Pierre III le père, on ne sait pas trop. Parce que là, il y aurait aussi des choses à dire sur les murs de Catherine.
Mais un fils qu'elle réussit à écarter.
Elle l'écarte. Il est petit encore. Il est très petit encore, donc la régence serait justifiable, mais s'autoproclamer impératrice de toutes les Russies, c'est une autre histoire.
Et alors, elle va lancer tout un grand mouvement de réforme. Ce qu'il faut expliquer, Michel Tissier, c'est qu'au XVIIIe siècle, les empereurs russes étaient influencés par le caméralisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette école de pensée économique et sociale prussienne ?
Alors, c'est tout à fait vrai que ce sont les empereurs ou impératrices russes qui sont influencés par cette vision dite du caméralisme. Mais ce qu'il faut dire a fortiori pour Catherine, c'est qu'elle-même est une princesse allemande, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, effectivement, il s'agit de la façon de considérer la bonne organisation d'un État à partir d'une base qui est la cour. La cour étant le lieu où se pense l'administration des États princiers en Europe, et donc c'est une façon de considérer la bonne marche des affaires, hein, tout simplement, avec un État qui doit être bien ordonné, des finances en ordre et une vision qui consiste à établir, si vous voulez, le gouvernement sur la base du droit, de la loi, autour d'une notion qui est la notion de police. Hein, la police, la notion de police, c'est une notion qui ne définit pas seulement ce qu'on considère aujourd'hui comme les forces de l'ordre, mais c'est l'ensemble des opérations, des structures qui permettent véritablement de policer l'État. Et donc c'est cette forme d'idéologie, si on veut, qui organise la pensée curiale à l'époque.
Et c'est dans ce mouvement que s'inscrit Catherine II. En cela, elle poursuit effectivement l'œuvre de ses prédécesseurs et elle va plus loin dans l'européanisation de la Russie, Francine Lechtonen.
Alors, je dirais qu'il y a deux Catherine. Il y a une Catherine sur le papier, qui est tout à fait européenne et qui reste européenne, qui s'exprime dans un français impeccable, même si les textes ont été retouchés, quand on regarde les manuscrits, c'est un peu moins parfait, et qui est sa propre propagandiste, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle elle étale ses programmes politiques, ses réformes face à Voltaire, face à Diderot, elle explique ses guerres aussi, et en même temps, dans la réalité, elle est très très limitée dans son pouvoir.
Catherine II, qui est connue pour avoir remis en cause le servage.
Je crois sincèrement que nous avons besoin de lois, respectées de tous et auxquelles tout le monde obéit. Les riches et les puissants, aussi bien que les pauvres et les démunis. Et pour cela, certains changements sont nécessaires. Le servage n'a pas à être une institution russe.
Ça ne se passe pas très bien.
Ce n'est pas faute d'avoir mis en garde votre mère. Tout son auditoire possède des serfs, des milliers pour la plupart. La Russie n'est pas prête pour le changement.
Est-ce juste qu'un homme riche puisse posséder un autre être humain ? Or, il en est toujours ainsi dans ce pays.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous continuons à parler de Catherine II, la conquérante, et de la prospérité de son empire. C'était un extrait de la mini-série HBO de 2019, Catherine la Grande, réalisée par Philippe Martin, avec Hélène Mirren dans le rôle de l'impératrice. Avec Catherine II, c'est la première fois en Russie que le servage est remis en cause, Michel Tissier.
Alors, dans les mots, sans doute, on a là un exemple avec l'extrait que vous avez passé de ce que Fantine-Dominique Lichtenal appelait Catherine propagandiste, plutôt que la Catherine pragmatique qui va traiter la question du servage tout au long de son règne. Alors, il est exact que on peut lire dans ses manuscrits publiés un certain nombre de remises en cause de ce qu'on appelle à l'époque la servitude en langue française également, enfin je veux dire c'est dans la langue française que ces choses s'expriment assez largement, pas uniquement mais assez largement. Et
ce n'est pas pour rien, parce qu'elle s'adresse aux philosophes des Lumières.
Absolument, et elle échange avec eux. Et donc, elle remet en cause cet état de fait, ce pouvoir que des maîtres ont sur des êtres humains. Donc, une partie, ça n'est qu'une partie, c'est pas du tout toute la paysannerie de l'Empire, mais une partie de cette paysannerie. Et ce qui se passe effectivement, c'est que elle s'inspire beaucoup d'un certain nombre de philosophes des Lumières, et elle est une grande lectrice de l'esprit des lois de Montesquieu en particulier. Et on peut lire dans ses manuscrits comment elle s'en prend par exemple à un juriste qui s'appelle Stroub, ou Stroub de Pierremont, qui écrit des lettres russiennes en 1760, et dans lequel il écrit en français une sorte de justification de cette servitude, et elle, dans les marges de son édition, de ce texte, s'en prend à l'auteur qui est un juriste qui a fait carrière dans son empire, dans l'empire russe, mais alors elle n'est pas encore impératrice à ce moment-là, et on voit qu'elle le critique et qu'elle dit qu'il n'a rien compris. Voilà. Mais la réalité de sa politique à l'égard de la paysannerie de l'empire est très différente en réalité.
On va y venir, mais effectivement, pourquoi cette volonté de réformer ainsi le servage? C'est aussi parce qu'elle a grandi en Allemagne, Francine Lichtenhahn, elle a vu une autre société, une autre organisation sociale.
Sans doute. Mais je pense qu'elle se rend aussi compte, parce qu'elle voyage beaucoup dans son empire, et elle se rend compte de certaines injustices, mais qu'elle ne peut pas résorber. Il ne faut pas voir ce que l'historiographie soviétique présentait souvent, le servage, comme une chose unique et uniforme. Le servage était très diversifié, il y a des seigneurs qui se rendent très bien compte de la valeur de leurs serfs, de leurs paysans, et qui leur donnent des formations. On a des histoires, par exemple, qu'on leur apprend à jouer du théâtre, etc. Donc ce sont des serfs qui savent lire et écrire, et qui pourront aussi plus facilement migrer vers les villes pour faire de l'artisanat, par exemple.
Mais ces serfs-là restent une minorité.
Mais c'est une minorité. La majorité des seigneurs, et surtout ceux qui sont à la cour, c'est-à-dire qui ont des positions clés à la cour, sont souvent des propriétaires de quelques milliers de serfs. Et ils n'ont évidemment pas envie de perdre leur fortune, parce qu'un cerf, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme du bétail, et plus on en a, plus on est riche. Et donc, il y a vraiment, c'est très diversifié, il y a aussi en effet de l'oppression. Par exemple, il était possible encore de vendre ses cerfs avec de la terre, certes, mais évidemment, c'était toujours contourné, et finalement, le malheureux se retrouvait sur des marchés aux esclaves.
Et en effet, cette réforme de la féodalité va échouer, Michel Tissier, tout simplement parce que le règne de Catherine II repose en grande partie sur la noblesse russe.
Oui, c'est ça. Quand vous parliez d'âge d'or tout à l'heure, pour le règne de Catherine II, c'est une expression qu'on utilise généralement pour parler de la noblesse, en fait. On qualifie beaucoup cette période d'âge d'or de la noblesse, davantage que âge d'or de la Russie ou de l'Empire. En effet, comme ça vient d'être dit par Dominique Lichtenhahn, c'est effectivement le lien, en fait, entre Catherine et la noblesse, qui est le fil directeur, finalement, le fil conducteur de sa politique, et la nécessité de s'appuyer sur cette noblesse pour différentes choses. D'abord, on l'a dit, il y a la question de la façon dont Catherine est arrivée au pouvoir. Et il y a ensuite l'ensemble des politiques qu'elle veut mener, et notamment l'expansion, la politique de puissance, on peut dire, qu'elle veut mener, et pour laquelle la noblesse est en fait l'instrument fondamental. Alors, c'est pas l'instrument unique, bien sûr, elle va avoir besoin d'une armée, et cette armée, elle va reposer sur des hommes de troupes qui doivent être encadrés par les nobles, et ce sont les nobles qui vont être l'instrument de cette politique de puissance, et donc il y a une forme d'arrangement au fil de tout ce règne qui permet de comprendre que si dans les discours le bien-être de la population dans son ensemble est quelque chose qui est considéré comme une exigence, dans la réalité on a un peu l'impression que c'est surtout le bien-être de la noblesse qui a compté le plus.
Oui, et d'ailleurs il y a de violentes révoltes paysannes qui vont éclater sous son règne et qui seront réprimées dans le sang, Francine Lichtenhahn.
Oui, il y en a plusieurs, et d'ailleurs ce sont souvent des cosaques qui se font passer pour Pierre III qui ne serait pas mort. Donc la légitimité du côté du peuple, de la classe rurale, est beaucoup plus mise en cause finalement que par cette noblesse qui certes guette le moindre faux pas de Catherine, mais qui finalement s'y accommode. Parce qu'ils en tirent des avantages. Mais je voudrais revenir sur les propos de M. Tissier. Je crois qu'il a dit quelque chose de très important. C'est en évoquant les guerres. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que d'une part, la conscription était basée sur ses serfs. C'est-à-dire, c'était le seigneur qui choisissait un certain nombre d'entre eux en fonction de la grandeur de ses propriétés. Et ils étaient envoyés, donc, ils étaient recrutés et envoyés au front. Sans trop de préparation par ailleurs. Et de l'autre, ce qui est aussi important pour les guerres incessantes de Catherine, parce qu'elle est quasiment tout le temps en guerre, c'est que les impôts sont touchés sur le paysan. C'est aussi là le seigneur qui rassemble donc l'argent et qui le passe à l'État, tout en trichant évidemment, le cas du choix des recrues.
Un rouble par tête.
Voilà, c'est ça, selon les conjonctures. Hein, et aussi le nombre de recrues change aussi en fonction de la guerre, de la difficulté de la guerre, etc. Mais il faut voir ça, donc ça donne un pouvoir supplémentaire évidemment au seigneur.
Et donc Catherine II va se rallier à cette idée que chacun doit rester à sa place, finalement. C'est aussi cela qui entraîne ces révoltes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ces révoltes paysannes, Michel Tissier ?
Oui, alors, il y a effectivement à la fin de la première décennie du règne de Catherine et dans les années 1770, différentes révoltes qui touchent en fait des populations qui ne sont pas toutes des populations de slaves orientaux, hein, mais aussi des différentes populations non slaves de l'Empire, dans la région de la Volga en particulier, la région de l'Oural. Et alors, effectivement, le moment le plus important et qui a laissé une empreinte extrêmement forte sur le règne de Catherine, mais aussi sur les suivants, c'est la fameuse révolte dite de Pougatchov, du nom de celui qui est devenu le meneur, en fait, de différentes populations mécontentes et qui lui-même, comme le disait François-Dominique Lichtenan, s'est fait passer pour Pierre III. Donc on est entre 1773 et 1775. Et ce qui est intéressant avec cette révolte, c'est que elle amalgame différentes populations mécontentes, donc dans ces régions qui sont, on peut dire, à l'est de la partie européenne de l'Empire, et qui vont notamment attirer à elle, enfin cette révolte va notamment attirer à elle un certain nombre de paysans mécontents, Catherine va réprimer
très sévèrement,
fermement cette révolte, et ensuite être très attentive aux équilibres de son empire pour éviter de se retrouver dans une situation aussi difficile.
Francine Lichtenan, en quoi ce fonctionnement de la société russe de l'époque, fondée sur le servage, a-t-il, selon vous, empêché l'émergence d'une classe moyenne ?
Alors, il y a différentes raisons. La toute première raison, c'est ce qu'on appelle la table des rangs. Oui, m'excusez. Qui a été créée par Pierre le Grand et qui permet l'anoblissement. Donc, en fait, nous sommes en Russie dans une société méritocrate. Si vous vous distinguez au service militaire ou dans l'administration, vous avez une petite chance d'entrer dans la noblesse, c'est-à-dire au 14e rang de la noblesse, qui n'est pas héréditaire, mais vous êtes noble, donc vous n'êtes pas bourgeois. C'est ça la distinction qu'on peut faire par rapport à l'Europe occidentale. Et en effet, il y a très très peu de paysans qui peuvent s'affranchir, soit par leur artisanat, soit par exemple en vendant une petite partie de leur récolte. Mais pour aller dans les villes, pour s'installer dans les villes, pour ouvrir un commerce, donc d'entrer tout doucement dans la bourgeoisie, c'est quasiment impossible.
Et oui, donc on n'a pas en Russie, comme dans d'autres pays européens de l'époque, l'émergence d'une première classe moyenne qui permettrait le développement du commerce, Michel Tissier.
Alors on peut dire ça effectivement comme ça. Ça reste de toute façon une société ultra majoritairement rurale et agraire. Donc le pourcentage de la population qui vit dans les villes, c'est moins de 4%. Pour commencer, alors c'est pas non plus le seul pays d'Europe qui est dans cette situation, très loin de là. Hein, et ce n'est pas non plus le seul pays d'Europe qui connaît des formes de servitude qu'on appelle le servage à l'époque. Hein, c'est-à-dire que ça se trouve aussi dans l'Empire des Habsbourg, enfin dans les domaines des Habsbourg, ou même en Prusse. Donc la Russie, l'Empire russe partage avec d'autres pays d'Europe un certain nombre de ces caractéristiques.
Alors, sauf qu'en plus, il y a une classe moyenne et une classe bourgeoise.
Voilà, tout à fait. Alors, ce qui est le plus remarquable, on peut dire, dans la politique particulièrement menée par Catherine II au fil de son règne, c'est comment elle a, pour des raisons qu'on a déjà évoquées, elle a vraiment mis au cœur, on pourrait dire, ce pacte qu'elle avait avec la noblesse, en lui réservant tout un ensemble de prérogatives, d'avantages. Évidemment, c'est présenté comme des privilèges légitimes à l'époque, y compris en matière économique. Si on a parlé tout à l'heure des impôts, alors on peut donner l'exemple. En fait, il existe depuis le règne de Pierre Ier un impôt direct qui est la capitation. Donc, il y a les populations qui sont taxables et celles qui ne sont pas taxables. Mais en matière de capitation, en fait, les serfs sur les domaines peuplés des nobles sont soumis à la capitation et c'est le maître qui collecte pour le reverser à l'État, mais le taux de la capitation sur cette population reste le montant reste inchangé tout au long du XVIIIe siècle. Alors à la fin du XVIIIe siècle, en plus, il y a une forte inflation, donc ce montant, si vous voulez, ça vaut encore moins. Alors que dans le même temps, en fait, les seigneurs eux-mêmes, qui doivent faire face justement à cette inflation croissante, vont augmenter les charges, notamment les redevances, qui pèsent sur leurs propres seigneurs. C'est-à-dire que on voit que l'État sous Catherine accepte d'une certaine façon de diminuer ses propres rentrées d'impôts directs au bénéfice des nobles. Donc ça n'est qu'un exemple d'un ensemble de réformes qui ont été faites à cette époque en ouvrant très largement en fait les avantages des nobles et aussi leurs opportunités économiques, en évinçant les marchands, c'est-à-dire une classe urbaine, si vous voulez, qui aurait pu être la base de cette classe moyenne dont vous parlez,
qui aurait pu l'être
d'un certain nombre de domaines.
Et en effet, en favorisant ainsi la noblesse et en appuyant cette idée selon laquelle finalement chacun doit contribuer selon son rang à la prospérité générale et à la grandeur de l'Empire. Francine Lichtenheim, Michel Tissier, restez avec nous, on continue à en parler dans un instant. Let's talk of Catherine the Great. Let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. Everyone paid homage to her. Catherine the Great, there were few brainier. Just ask the king of Lithuania. She could dictate what went on anywhere. She had great hair and a powerful gait. Catherine the Great. Catherine the Great. She could converse with the best. She knew Voltaire, Diderot, and the rest. She might have conquered a third of the world, but inside she was a sensitive girl. Catherine the Great, with her military might, she could defeat anyone that she liked. And she looked so bloody good on a horse that they couldn't wait for her to invade. Catherine the Great. We'll be right back. Catherine the Great du groupe nord-irlandais The Divine Comedy. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Catherine II de Russie, la réforme éclairée, c'est notre sujet. Aujourd'hui, les historiens Michel Tissier et Francine Lichtenan sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Jeanne Cherquefosse avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde par Anthony Thomasson. Alors comment la volonté de réforme de Catherine II va-t-elle s'incarner? Toutes ces propositions sont consignées dans ses instructions. Extrait.
Les métiers ne sauraient se perfectionner et il n'y aura point de commerce solidement établi là où l'agriculture sera négligée. L'agriculture ne pourra jamais prospérer là où l'agriculteur ne possède rien en propre. Ceci est fondé sur un principe bien naturel. Tout homme est bien plus soigneux de ce qui lui appartient en propre de ce qui est à autrui. Il ne prodigue pas ses peines pour une chose dont il ne peut craindre qu'elle ne lui soit enlevée par un autre. La culture des terres est le plus grand travail des hommes. Plus le climat les porte à fuir ce travail, plus les lois doivent les y exciter. Il serait bon de donner des prix aux laboureurs qui auraient le mieux cultivé leurs champs, de même qu'aux ouvriers qui auraient porté plus loin leur industrie. Cette pratique produirait de grands biens par tout pays. Elle a servi de nos jours à l'établissement des plus importantes manufactures. L'agriculture est le premier et le plus important des travaux auxquels les hommes doivent être encouragés. Les manufactures des productions du pays tiennent le second rang.
Une lecture par Anouk Milliot de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Qu'est-ce que sont que ces instructions que Catherine II publie 5 ans après le début de son règne, Francine Lichtenan?
Alors Catherine rassemble ce qu'on appelle la Grande Commission au début de son règne, dans l'espoir justement d'essayer d'inciter les nobles à changer, à s'ouvrir un petit peu vers ce qu'on peut appeler une forme de capitalisme finalement, déjà à cette date-là. Et elle voit bien qu'elle échoue complètement. La noblesse se braque contre elle, surtout que, évidemment, cette commission rassemble des personnes issues de la haute noblesse, donc lettrées, donc qui sont clivées comme elle, finalement, entre une idée plus ou moins européenne de ce qu'on peut imaginer sur l'agriculture et de l'autre la réalité du terrain russe, tout simplement. Et donc elle écrit en effet, dans le cadre même de cette grande commission, ses instructions. Dans les 3 langues, donc elles vont être publiées aussi en allemand et en russe, mais là c'est le texte original français donc que nous avons entendu, mais là encore on revient toujours au même principe, c'est destiné à l'exportation avant tout.
Et on entend bien dans cette lecture, cette volonté de Catherine II de développer l'agriculture et l'industrie. Comment est-ce que cette volonté s'est-elle traduite dans les faits concrètement, Michel Tissier?
Alors, elle s'est traduite d'une certaine façon. Ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que ce texte, et en particulier le passage que vous avez donné à entendre, nous montre à nouveau comment elle cherche à bien faire voir que l'Empire se rapporte aux grandes idées qui circulent alors en Europe. Et bon, par exemple, on l'a dit, c'est un pays qui reste majoritairement rural, agraire, mais le point que vous avez cité où elle dit voilà, l'agriculture ça reste premier et il faut trouver les moyens de l'améliorer, etc. Ça renvoie à des débats très importants dans la pensée économique du XVIIIe siècle et on pense par exemple à la vision que les physiocrates avaient de l'agriculture et de la place qu'elle devait tenir dans l'économie, une place première. Alors du point de vue de la mise en œuvre, ça peut se voir à différents niveaux et en particulier avec malgré tout au-delà de la seule propagande de vraies tentatives de modifier les structures sociales et économiques en insistant en particulier sur des éléments dans le champ de l'éducation, de la diffusion des connaissances, du savoir. Et ça va aussi avec le rôle qu'elle veut donner à la noblesse, parce que la noblesse est censée, ou qu'elle reconnaît à la noblesse est censée être porteuse de cet esprit rationnel, cet esprit de bonne organisation. Et alors les nobles même vont être par les voyages qu'ils effectuent aussi de plus en plus, en tout cas pour une partie de la noblesse, vers l'Europe occidentale, mais aussi par leurs activités à l'intérieur de l'Empire, dans un certain nombre de sociétés savantes. Donc il y en a une qui est très importante dans le champ économique et aussi pour l'agriculture, c'est la Société libre d'économie, hein, qui est fondée en 1765, et donc qui est ouverte sous le patronage de Catherine et avec pour si vous voulez mettre en œuvre la volonté qui est la sienne de diffuser un certain nombre de bonnes idées, de bonnes pratiques pour renforcer l'économie du pays. Mais ça va se voir aussi pour l'encouragement au commerce et à chaque fois en disant aux nobles qu'ils sont légitimes à tenir le premier rôle.
Oui, il y a aussi un développement de la sidérurgie et en même temps un développement, une réforme de l'agriculture qui permet d'augmenter la production, Francine Lichtenan.
Alors, il y a surtout un progrès au niveau industriel. Car les serfs, il ne faut pas les imaginer exclusivement occupés à labourer leurs champs. Les techniques ne changent pas vraiment sous le règne de Catherine. Par contre, il y a effectivement un certain nombre de serfs qui sont injectés dans une industrialisation naissante, dans les manufactures, que les nobles peuvent posséder. Toujours est-il que ça n'améliore pas forcément leur situation, parce que ça les oblige de ne plus vivre en fonction du climat. Le serf qui laboure sa terre, en hiver, il est tranquille. Il ne se passe rien vu le climat qu'il y a en Russie. Alors que quand il est embauché, moyennant très très peu d'argent d'ailleurs, dans cette industrie naissante, il travaille toute l'année. Et ça, c'est un changement pour les mentalités très important en Russie. Et en effet, il y a un certain nombre donc de mines qui s'ouvrent, notamment dans l'Oural, avec des familles qui ne sont pas forcément nobles, comme les Stroganov ou les Demidov, qui sont à la tête donc de l'exploitation de ces gisements dans le lointain Oural.
Michel Tissier, peut-être sur cette industrie naissante.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi à considérer, ce sont les raisons pour lesquelles cette industrie, ou cette, en particulier pour la sidérurgie, la métallurgie, se sont développées. C'est tout à fait en lien avec les demande de l'État de matériaux pour l'armée, hein, pour l'effort militaire. C'est d'abord ça qui a été déjà à partir de Pierre Ier le moteur, hein, principal du développement de ces activités. Cela dit, au cours du XVIIIe siècle, une capacité croissante de l'Empire à développer cette activité sidérurgique pour l'exportation. Ça fait de l'Empire russe, à la fin du XVIIIe siècle, le premier pays exportateur de fonte dans toute l'Europe, avec beaucoup de clients, en particulier la Grande-Bretagne. Les besoins sont d'abord militaires et ensuite l'exportation. Mais du point de vue des technologies, on note aussi que sur le plan de la sidérurgie, il n'y a pas non plus une volonté d'introduire des techniques plus modernes. Enfin, c'est pas une volonté qui est très marquée. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans le champ de l'agriculture, même s'il y a ces incitations qui restent très inégalement appliquées à améliorer les pratiques agricoles.
Mais en effet, il faut développer la sidérurgie pour approvisionner l'armée, car vous l'avez dit, sur le plan militaire, Catherine II a de grandes ambitions.
Quand je vois la Russie, Matyushka, mon regard se porte bien plus au sud, sur la Crimée et la mer Noire, de vastes et désertes étendues de terre que nous devrions revendiquer.
La Crimée.
Oui.
Le plus vieux fantasme russe.
Un port sur la mer Noire, où nous pourrions construire une flotte qui nous rendrait puissants et ferait de nous une grande nation.
Bien, mais nous devrons faire preuve d'une remarquable diplomatie.
Je serai remarquablement sournois. Oui, oui. Non. Je sais à quel point Monsieur Panine aime les Allemands, tout comme ton fils, le Grand-Duc. Oui, je ferai preuve de diplomatie et de duplicité.
Des qualités nécessaires à tout homme d'État, comte Potemkin.
Catherine II et son ministre, le comte Potemkin, dans la série d'HBO Catherine la Grande. Catherine II souhaite en effet rien de moins que reconstituer l'ancien empire byzantin, Francine Lichtenan.
Alors, c'est peut-être pas forcément l'empire byzantin. Elle veut créer un empire grec, avec pour capitale en effet Constantinople, et qui contrôlerait la partie orientale de la Méditerranée. Cet empire est destiné à un de ses petits-fils, Constantin, qui porte pas par hasard ce nom, et qui est d'ailleurs éduqué, il est bilingue, on lui apprend le grec, on lui apprend les mœurs grecques, etc. Il a une nounou grecque, enfin bon, elle va très loin dans cette ambition, dans l'idée, et même assez persuadée, qu'elle allait un jour quand même mettre sa patte sur l'Empire ottoman. Mais il faut ajouter qu'il y a un autre royaume qui est sur le programme, c'est la Dacie. La Dacie étant en fait, en gros, les Balkans slaves, donc la Moldavie, la Valachie, etc., où elle souhaitait introniser, là encore un orthodoxe bien sûr, et c'était personne d'autre que Potemkin, qui était son mari morganatique. Hein. Il n'était pas simplement un grand chef de guerre et quasiment co-régnant avec elle, mais c'était vraiment son époux.
Oui, effectivement, le royaume de Dacie lui avait été promis, mais l'impératrice ne parviendra pas à réaliser ce qu'on a appelé le projet grec. Elle réussit tout de même à annexer la Crimée et l'Ukraine en plusieurs fois. Michel Tissier, comment y parvient-elle ?
Alors, pardon. Là, ce sont des moments différents. En fait, si on parle de l'Ukraine, ça nous amène à une temporalité qui est un peu plus large. Et il faudrait remonter au XVIIe siècle. Et donc, surtout si on raisonne à partir de l'Ukraine actuelle. Donc, ce qui va caractériser le règne de Catherine dans son expansion vers l'ouest, c'est le rapport à l'État polono-lituanien, cette république aristocratique qui est un ancien État extrêmement important au centre et à l'est. L'Est de l'Europe et qui va être comme
démantelé,
ce qui est bien connu, démantelé entre l'Empire russe, enfin à la suite des politiques menées par Catherine, mais pas Catherine seule, avec la Prusse et les Habsbourg. Donc ce sont les fameux trois partages de la Pologne, le premier en 1772 et les suivants à la fin de son règne. Ça c'est une des pistes, une des directions de l'expansion de l'Empire vers l'Ouest, et donc qui vont aussi aboutir à intégrer un certain nombre de terres ukrainiennes dans l'Empire, qui viennent s'ajouter à celles qui y figuraient déjà. Et d'ailleurs, ça va aussi avoir des conséquences sur le sort des populations locales, puisque, pour faire le lien avec les choses dont on parlait précédemment, en fait, ça va aboutir aussi à un durcissement de la condition d'une partie de la paysannerie dans ces régions, qui va être asservie.
Et à travers ces nouveaux territoires annexés, dans cette région qui s'étend de la mer d'Azov aux rives de la mer Noire, qui est baptisée Novorossiya, Nouvelle-Russie, Catherine II cherche à ouvrir la Russie au commerce international, Francis Lichtenel.
Si je peux peut-être ajouter un petit détail par rapport à ce qui a été dit. Donc, il y a effectivement une tripartition. Il y a l'Autriche qui fait partie de ceux qui mangent le gâteau, et la Prusse, et d'ailleurs c'est sous l'instigation de la Prusse que se fait le premier partage de la Pologne, mais il faut pas oublier, et ça explique beaucoup de choses, c'est qu'une grande partie de l'Ukraine, c'est-à-dire la Galicie, tombe dans l'escarcelle de l'Autriche. Ce qui explique aussi des grosses différences de mentalité sur ce territoire qui sera plus tard constitué en République soviétique. Mais je ferme la parenthèse. Donc pour le commerce, effectivement, c'est très important cette conquête parce que enfin elle a accès à une mer chaude avec évidemment les Bosphores. Donc le Bosphore, les Dardanelles, donc ça permet aussi un passage vers la Méditerranée.
Ça ouvre de nouvelles routes commerciales.
Ça ouvre de nouvelles routes, mais surtout ça permet, et elle est vraiment une bâtisseuse de villes. Elle fonde d'innombrables villes dans ces régions-là, qu'elle peuple par, faut-il le dire, des déportations de populations souvent forcées. Par exemple, Odessa, déjà sous Catherine, devient une ville à forte population israélite, parce qu'elle les incite, pas forcément toujours sur une invitation, hein, de se déplacer, parce qu'elle les connaît comme bons commerçants, et donc elle les incite à se déplacer vers le sud et à peupler ces différentes villes, notamment Odessa, qu'elle crée autour du pourtour de la mer Noire.
Donc certaines populations sont amenées de force, notamment à Odessa. D'autres populations sont évacuées des nouveaux territoires conquis, comme les Tatars, Michel Tissier.
Oui, alors c'est beaucoup plus tard aussi que ces populations des Tatars de Crimée seront déportées. Hein, là, pour le coup, les dirigeants de l'Empire et surtout plus tard de l'URSS auront des politiques très très dures vis-à-vis de ces populations.
Mais déjà sous Catherine II, il y a des évacuations de populations tatares.
Il y a des évacuations et il y a une sorte d'ingénierie en fait plus large de la migration et du peuplement. Et ça renvoie aussi à des conceptions économiques, hein, c'est-à-dire que l'idée d'avoir une population importante est une idée absolument fondamentale, donc là qui s'inscrit dans la tradition caméraliste et aussi dans les idées du mercantilisme. Et donc à côté de ces déportations, de ces déplacements forcés de population, il y a aussi tout un ensemble de politiques qui visent à inviter des populations, à encourager des populations qui viennent des Balkans, qui viennent de l'Empire ottoman, qui viennent d'Allemagne, enfin des pays germaniques aussi, à s'installer comme colons et avec un certain nombre d'exemptions, d'avantages. Et donc on assiste à effectivement à un ensemble de déplacements. Et pour des raisons qui sont liées à des notions d'ordre, hein, de police, comme on disait tout à l'heure, mais aussi de développement, de vision, d'encouragement à la prospérité, en faisant venir un certain nombre de gens qui sont considérés comme capables d'introduire des nouvelles techniques, d'introduire des façons de produire qui étaient inconnues sur place. Donc très typiquement, c'est ce qui se passe en Crimée.
Ces nouveaux territoires dopent l'économie russe, Francine Lichtenan, puisque l'Ukraine était déjà à l'époque le grenier à blé de l'Europe.
Tout à fait. Parmi les exportations massives de la Russie, on a parlé de la métallurgie, mais il faut parler en effet aussi de tout ce qui peut servir sur les chantiers navals occidentaux, et en effet le blé. La Russie est exportatrice de blé. Mais je voulais ajouter un petit détail aussi par rapport à ce qui a été dit. Il ne faut pas oublier que la Crimée est conquise sur les Tatars, qui sont les vassaux de l'Empire ottoman. Et les Tatars sont des nomades, par définition. Mais comment voulez-vous faire prospérer le commerce avec des nomades ? Donc ils doivent aussi partir tout simplement par leur mœurs.
Donc ils sont considérés comme un obstacle à
voilà,
la prospérité.
Exactement. Parce que Catherine, surtout Potiomkine, qui est chargée de l'intégration de ces régions dans l'Empire, il veut fertiliser la terre, il veut irriguer, enfin il a toutes sortes de projets, il plante des fruits, des arbres, tout ce qu'on veut. Mais évidemment, des populations nomades au milieu de tout ça, ça dérange.
Et alors, à qui profite cet enrichissement de la Russie en cette fin du XVIIIe siècle ? Sans surprise, à l'aristocratie russe. Et ça se traduit, Francine Lichtenan, par une hausse de la demande de produits de luxe dans le pays.
La Russie a toujours été très friande de produits de luxe à partir d'Elisabeth. Ça, c'est pas vraiment nouveau. Et au contraire, Catherine est au fond moins encline au faste que sa tante, vu que c'était sa tante par alliance. C'est l'aristocratie qui mène une vie de grand train avec la construction de palais, notamment, justement dans ces nouvelles régions qui entrent dans l'escarcelle de la Russie. Grand train aussi par des voyages, des études à l'étranger. Ça coûte quand même très très cher d'envoyer son fils à Thuringe ou à Strasbourg. parfois aussi à Paris, peut-être moins pour des études. L'Allemagne est plus cotée pour les études que la France.
Donc c'est la très haute noblesse, voilà, et quelques grands commerçants qui, oui, s'enrichissent ainsi et qui peuvent, oui, acheter des produits de luxe, des meubles, des vêtements. Comment est-ce que cela se traduit?
Mais en fait, la Russie est avant tout exportatrice de matières premières. Par contre, il y a très peu d'artisans, d'ébénistes par exemple, sur place, qui puissent équivaloir dans la qualité à ce qui se produit en France par exemple ou en Italie. Les deux grands producteurs de luxe évidemment en Europe. Donc, soit elle fait venir en effet des artisans de l'Occident, ou alors elle importe donc des objets de luxe qui viennent en général de France et d'Italie. Toujours est-il, il faut rajouter, Michel Tissier l'a dit tout à l'heure, il y a l'implantation de colonies, notamment d'Allemands, qui doivent servir de modèle, non seulement dans de nouvelles techniques d'exploitation agricole, mais aussi justement pour la production d'objets de luxe ou de semi-luxe sur place même.
Au XVIIIe siècle, Catherine II est considérée comme une despote éclairée par les philosophes des Lumières. Elle est notamment très admirée par Diderot. Écoutez ce qu'il écrit dans ses entretiens avec Catherine II en 1773. Il n'y a pas un honnête homme, pas un homme qui ait un grain d'âme et de lumière à Paris qui ne soit l'admirateur de votre majesté. Elle a pour elle toutes les académies, tous les philosophes, tous les penseurs, tous les hommes de lettres, et il ne s'en cache point. On a célébré sa grandeur, ses vertus, son génie, sa bonté, les efforts qu'elle fait pour établir les sciences et les arts dans son pays. Les faits dans la paix et dans la guerre, on les a célébrés, dis-je, bien franchement, et en 100 façons diverses. Et je crois que la cour n'a pas été trop fâchée de voir au roi de Prusse une rivale préférée dans notre estime et dans nos éloges. La France ne doit avoir aucune répugnance à vous compter entre les puissances premières de l'Europe. Nous pensons tous que votre puissance est stable et ne passera pas. Ah, mes amis, supposez cette femme sur le trône de la France. Quel empire! Quel terrible empire elle en ferait! Et en combien peu de temps! Michel Tissier, que vous inspire ce texte qui est donc écrit par Diderot lorsque celui-ci se rend à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Catherine II en 1773, à un moment où la Russie est déjà engagée depuis plusieurs années dans une guerre contre l'Empire ottoman?
Oui, je ne sais pas s'il faut se faire le juge de Diderot, mais ce qu'on peut dire, c'est que Diderot en est revenu lui-même de cette image de Catherine, de son empire et de ses politiques. Quelques années après, il est beaucoup plus sarcastique sur la façon dont Catherine mène ses affaires. Et donc,
tout comme il y a peut-être de l'ironie lorsque Voltaire surnomme Catherine II la Sémiramis du Nord en référence à cette reine semi-légendaire qui a conquis le royaume assyrien de Babylone.
Oui, alors ça, je ne saurais pas vous dire. C'est sur le moment où cette phrase a été prononcée, il y avait de l'ironie. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, Voltaire a effectivement beaucoup échangé avec Catherine. Il a d'une certaine façon participer aussi à ses premières entreprises politiques. Il a par exemple envoyé des réponses, bon certes anonymes, au concours qu'elle avait lancé au début de son règne pour demander des avis des savants de toute l'Europe sur la façon d'améliorer le sort des paysans et l'agriculture par exemple. Donc là on a un effet de ce qui a été dénommé, c'est très connu dans les travaux historiques, le fameux mirage russe de cette période-là. Alors là, on pourrait épiloguer sur les différentes générations dans l'histoire de penseurs français qui auraient succombé au dit mirage russe. Mais disons que ça renvoie effectivement à ce qui a été la grande habileté politique de Catherine et et à sa capacité à situer effectivement l'Empire russe au cœur des affaires européennes, intellectuellement, d'une certaine façon, comme elle a réussi à le faire diplomatiquement, et comme elle a voulu le faire économiquement, mais sur le plan économique, elle a abouti à un résultat qui est très déséquilibré. Hein. Ça a été dit tout à l'heure pour le commerce extérieur, hein, par exemple, avec un empire qui est capable effectivement de devenir la première puissance exportatrice pour la sidérurgie, pour le blé.
Mais pas pour autant qu'il n'est pas capable de développer son industrie. Elle commence à se développer en Europe de l'Ouest à cette époque, Michel Tissier.
Oui, et avec des importations qui, on en parlait à l'instant, pour les importations dans l'Empire, c'est, j'ai trouvé des statistiques comme 80 à 90% de produits manufacturés. Qui sont donc introduits et qui renvoient à cette difficulté de l'Empire à lui-même à transformer les immenses richesses qui sont celles de ce pays, faute de savoir-faire et aussi de confiance aussi dans l'introduction, pas seulement proclamée, mais réelle de nouvelles techniques et aussi d'une recherche effectivement qui soit tournée vers disons des consommations pour l'ensemble de la population au lieu d'être concentrée sur bien la volonté d'ostentation en fait des classes supérieures.
Francine Lichtenau, les philosophes des Lumières se sont laissés berner par le mirage russe, ils ont été dupes.
Oh, tout à fait, mais c'était aussi tout simplement alimentaire. Il faut quand même pas oublier que Catherine paye pour, hein. Donc, et d'ailleurs, il y a déjà un ouvrage de commande sous Élisabeth à Voltaire, c'est-à-dire une histoire de Pierre le Grand. Et la fameuse Sémiramis du Nord est utilisée pour la première fois pour Catherine Ier, qui n'a strictement rien fait. Elle est réutilisée pour Élisabeth, qui elle a quand même une œuvre qui est un peu méconnue. Et puis c'est réutilisé encore pour Catherine II. Donc, on est dans une espèce de série. L'impératrice de Russie est une Sémiramis du Nord pour montrer qu'une femme aussi peut être à la tête d'une grande puissance. Mais il faut voir que l'attitude des philosophes n'est pas du tout conforme à l'attitude de la Cour de France. La Cour de France considère Catherine, disons-le avec mépris, le premier ambassadeur au début du règne de Catherine refuse de lui baiser la main, considérant qu'elle n'est pas légitime sur le trône. Donc il faut, et les tensions continuent jusqu'à la fin du règne, notamment parce que la France est l'allié naturel et de la Suède, avec laquelle Catherine mènera une guerre tardive, mais de la porte ottomane, depuis François Ier, il ne faut pas l'oublier, nous avons, pour nous, Français, l'Empire ottoman fait partie de l'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, évidemment, la disparition de la Pologne. Donc, et la coopération de Catherine avec, quand même, l'ennemi né de la France, qui est avant tout l'Empire habsbourgeois.
Et donc, Catherine II a été présentée comme une despote éclairée, alors même que finalement, paradoxalement, alors même qu'elle avait peut-être eu, sinon l'intention, en tout cas, la volonté, le désir de remettre en cause le servage, en réalité, le servage a connu son apogée pendant son règne, Michel Tissier.
Ah oui, du point de vue de la condition même des paysans sur les domaines des maîtres et du point de vue numérique aussi. En fait, l'expansion impériale a fait rentrer un certain nombre de terres, notamment issues de la Pologne, alors sur lesquelles il y avait aussi des domaines peuplés de serfs, mais sur lesquels, comme je l'avais dit précédemment, Catherine a également durci la condition des paysans.
Alors même que la féodalité est remise en cause en Europe dans le sillage de la Révolution française.
Oui, alors absolument.
À la fin du règne de Catherine II.
À la fin de son règne, c'est-à-dire les événements de France, de la Révolution, sont regardés avec horreur par Catherine.
Elle parle d'un repère de brigands.
Voilà, et lui font regretter peut-être certains discours qu'elle avait tenu précédemment, et en tout cas la renvoie aussi à ce que au désordre, au trouble. troubles et aux dangers qu'elle avait connus à certaines périodes de son règne, notamment avec la révolte de Pogatchov. Donc elle cherche à mettre un terme aussi à certains discours au sein des élites de son empire, parce que elle est très craintive sur les conséquences possibles de ces événements.
Un tout dernier mot peut-être, Francine Lichtenhain, sur le bilan qu'on peut dresser des 34 ans de règne de Catherine II sur les plans économiques et sociaux.
Alors le bilan, évidemment, il est plutôt négatif sur le plan... Même si la Russie est très riche, hein, considérée comme un pays riche, mais elle est riche. Pourquoi ? Parce qu'elle joue avec l'inflation. Donc c'est un bilan plutôt négatif. Le bilan positif de l'époque catherinienne, c'est évidemment le bilan culturel.
Merci beaucoup à tous les deux, Francine Lichtenhain et Michel Tissier. Merci beaucoup également à Vincent Levotte de France Bleu Armorique qui a assuré ce duplex. C'est la fin de cette émission. Demain, nous reviendrons sur l'économie selon Voltaire avec Martial Poirson et Loïc Charles. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
L'esprit d'ouverture.